Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
La question d'une nouvelle constitution pour un Congo restauré. Pourquoi une nouvelle constitution pour la RDC? Nous en parlons dans le magazine de promotion de vos droits et devoirs avec le professeur Placide Mabaka. Excellente écoute à tous. Professeur Placide Mabaka, vous avez publié un livre de 150 pages, subdivisé en deux chapitres, précédé d'un chapitre préliminaire. Et ce livre est intitulé « Une nouvelle constitution pour un Congo restauré ». Parlons d'abord de la forme. Je vois les deux drapeaux qui occupent la couverture. Le drapeau de 1997 à 2006, frappé de 6 étoiles jaunes à la hampe, au fond bleu. Puis à la dernière page, c'est le drapeau de l'ex-Zaïre de 1971 à 1997, s'agit-il d'une simple symbolique nostalgique ou d'un souhait de fusionner les deux drapeaux, étant donné que dans votre livre, vous parlez déjà d'une république démocratique du Congo Zaïre?
Oui, en réalité, c'est très symbolique, mais le symbolisme ici n'est pas nostalgique, bien au contraire. C'est un symbolisme qui veut réunir toutes les phases, les trois phases de notre histoire, et le drapeau qu'on considère comme étant de 97, en fait, c'est un drapeau qui a existé de 60 à 63, dont la couleur a été changée, c'était le bleu ciel, et là, ils ont mis le bleu roi. Bon, moi, mon idée, c'est de dire que depuis 64 ans, on a tendance à exclure certaines phases quand les autres arrivent. Or, ce qu'il faut, c'est réunir un peu. C'est une forme de réconciliation avec notre histoire, comme diraient certains aînés. Et il faut que nous puissions assumer toute notre histoire. D'où l'idée de réunir un peu ces symboles. Bon, par manque de place, on n'a pas pu mettre l'autre, mais c'est cette idée-là d'unification, hein, d'unité, de réconciliation, pour ne pas dire de conciliation plutôt, de conciliation de l'ensemble de notre histoire.
Entrons maintenant dans le vif du sujet, le contenu de votre projet de constitution. Quelles sont les idées forces de votre projet de constitution pour la 4e République que vous proposez?
Alors, moi, mes idées forces tournent autour d'une seule idée, je dirais. C'est la restauration de notre identité. Et la restauration de notre identité, c'est par rapport déjà à la dénomination du pays. On a été, depuis 60, en République démocratique du Congo, Congo-Léopoldville, Zaïre et après République démocratique du Congo. Je pense qu'aujourd'hui, en se dénommant République démocratique du Congo, c'est un non-sens. Déjà, il y a le Congo, Brazzaville à côté, qui s'appelle République du Congo. Et pour savoir si on est Congolais, c'est pas qu'on dit « qui êtes-vous, je suis Congolais ». Mais souvent, on demande de quel Congo ou de Congo-Brazzaville. On est obligé de préciser qu'on est Congolais démocratique, soi-disant. Or, déjà, une république, c'est démocratique. Une démocratie, c'est foncièrement une république d'un point de vue philosophique. Donc, cette dénomination n'a pas de pertinence pour nous distinguer, parce que l'identité, c'est un élément essentiel qui nous singularise. Quand on est dans une même famille, nous avons le même patronyme, mais il y a le poste-nom et le prénom qui nous distinguent les uns des autres, tout en ayant le même patronyme. Et nous, par rapport au Congo-Brazzaville, nous pouvons nous appeler Congo-Kinshasa, par rapport à la capitale, comme c'était le Congo-Léopoldville. On peut s'appeler Congo-Zaïre, parce que on va concilier les deux, Congo et Zaïre. Mais aujourd'hui, j'ai évolué un peu dans ma réflexion, et d'un point de vue symbolique, d'un point de vue spirituel, je propose plutôt, pour sceller un peu nos liens avec nos ancêtres, qu'on dénomme notre pays, c'est Congo, avec K, Congo de Kimbangu. Pourquoi? Parce que Kimbangu, c'est un symbole de libération d'un point de vue à la fois matériel et spirituel de ce pays. Avant les Lumumba et les autres, je pense que c'est le Kimbangu symbolise un peu cette lutte contre le colon, contre la dépendance.
Ça n'explique pas l'instabilité même du pays, changement de nom à tout moment. Congo, Kimbangu, référence au prophète Simon Kimbangu.
Tout à fait.
Mais le changement du nom, qu'est-ce que cela a à voir avec le bien fondé de votre projet pour le pays?
Le nom détermine notre destin, pour ne pas dire notre destinée. Et je pense que lorsque un enfant naît, on ne le nomme pas n'importe comment. lorsqu'on le nomme, on lui accorde une mission. On lui donne aussi une force d'un point de vue spirituel, de façon visible et invisible. Donc la dénomination d'un pays est très très importante. On ne peut pas passer outre. Que symbolise République démocratique du Congo? Ça symbolise quoi? Que ce soit d'un point de vue idéologique, philosophique ou spirituel. Ça n'a aucun sens. Nous devons bien nous identifier. Nous devons nous singulariser par rapport à d'autres. Lorsqu'on était sous le Zaïre, sans être nostalgique, mais on savait qui était un Zaïrois. Mais aujourd'hui, un Congolais, on ne sait pas ce qu'il est. Et d'ailleurs, depuis qu'on s'appelle République démocratique du Congo, on a vu que le pays a regressé. Le pays a beaucoup regressé au lieu de progresser. Donc on doit s'interroger sur le fait de savoir si cette dénomination ne nous apporte pas, si vous permettez, la poisse. Au-delà justement de la dénomination du pays, il y a aussi les armoiries. Les armoiries sont très symboliques. Et c'est pour ça que j'ai mis les anciennes armoiries sur la couverture. Donc, d'où la restauration, un Congo restauré. Nous devons restaurer nos armoiries. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est à la radio, mais si on avait des images, j'allais vous montrer les armoiries d'avant et les armoiries d'aujourd'hui. On voit que les armoiries d'avant symbolisaient l'unité. Tout est entrelacé, tout est uni, alors que les armoiries d'aujourd'hui, ce sont des éléments qui sont juxtaposés. On peut les séparer sans que cela détruise l'ensemble. Alors que ici, si on, les anciennes armoiries, si on sépare, on enlève un seul élément, ça détruit le reste. Donc c'était vraiment le sens de l'unité. Deuxièmement, d'un point de vue symbolique, on a la palme par exemple qui est à gauche. Au-dessus, il y a la flèche qui représente la chasse, qui représente également, la palme représente la richesse, la justice. Bon, nous avons perdu cette justice-là et nous avons été appauvris parce qu'on l'a enlevée. Qu'est-ce qu'on a fait? On a renversé maintenant ce qu'on appelle l'ivoire, qui était à droite avec la lance. On a déconnecté la lance de l'ivoire. L'ivoire et la lance représentent la puissance, n'est-ce pas? Et tout ça se trouve à droite. Et la droite, c'est le symbole de l'autorité. Notre pays aujourd'hui a perdu son autorité. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord laissé la lance seule, à droite, sans appui, et l'ivoire, on l'a mise à gauche. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit le dessin, on ne sait pas dire que c'est vraiment de l'ivoire. Vous voyez? Donc on nous a en quelque sorte démunis de tout ce qui fait constituer notre force, de tout ce qui constituait notre spécificité, notre singularité, et on nous a appauvris.
Donc on nous a éloignés de nos ancêtres.
Exactement. Il faut retourner à nos ancêtres. Comme disait le maréchal Mobutu, voilà. Il faut recourir, pas vraiment en retour, il faut recourir, savoir que notre pays ne concerne pas que nous qui sommes vivants aujourd'hui. Les morts font partie du pays, sont des citoyens. Mais ceux qui ne sont pas encore nés, ceux qui viendront, sont également des citoyens. Nous sommes simplement une forme de pont, n'est-ce pas, de passerelle. Nous faisons la passerelle entre les anciens, ceux qui sont déjà partis, qui nous ont légué ces terres. On sent ça même dans l'hymne national aujourd'hui. Et ceux qui vont venir, parce que l'hymne national, le debout congolais, se conjugue au futur. Mais ce futur-là fait référence également au passé.
Vous plaidez pour la refondation, en tout cas, du pays.
Moi, je préfère utiliser le terme de restauration que refondation. Voilà. Parce que la restauration peut consister à tout enlever et bâtir de nouveau. Parce que si on refonde, c'est comme s'il y avait déjà une fondation. Or, moi, je considère qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a pas de fondation. Et c'est ça qui pose problème. Et pour terminer toujours sur notre identité, un trois éléments, parce que c'est ce sur quoi j'insiste, c'est également la question de nos langues. Moi, je plaide pour que nos langues nationales deviennent des langues de gouvernement. Donc, je crée une pyramide linguistique à préférence nationale. On ne va pas sortir de la francophonie, on ne va pas rejeter le français, parce que ça fait partie de notre histoire. En revanche, ça ne peut pas être mis en avant, parce que ce ne sont pas nos langues. Nous devons nous exprimer dans nos langues maternelles, les Kikongo, les Chiluba, les Swahili, les Lingala, et ça va créer une émulation au niveau des institutions.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi.
professeur Mabaka Placide, pourquoi voulez-vous une nouvelle constitution alors que le pays, instable plusieurs fois, en a connu beaucoup et l'actuelle, celle du 18 février 2006, semble meilleure selon de nombreux constitutionnalistes, des éminents professeurs d'université, mais vous la qualifiez d'une constitution risquée et à risque?
Oui, je respecte la position de mes autres collègues, mais moi j'ai toujours combattu cette constitution avant même son adoption. Ce que je qualifie de risqué et à risque, c'est avéré être réel. Pourquoi ? Parce que lorsque vous bâtissez une maison, si vous faites une maison en terre plein ou une maison R plus 1, R plus 2, R plus 3, vous allez déjà voir le sol et la fondation que vous allez mettre en place. C'est-à-dire que la naissance même de la constitution de 18 février 2006, c'est une mauvaise naissance. Le point de départ est mauvais. Parce que cette constitution n'est pas une constitution des Congolais ou pour les Congolais. Ce sont les belligérants. Parce que c'est Sun City. C'est au dialogue inter-congolais que tout cela a été déterminé.
Des belligérants.
Exact, des belligérants. C'est octroyé. Parce que si vous suivez l'histoire, vous êtes bien placé que tout le monde. Il y a eu l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, l'arrivée de Joseph Kabila et les rébellions. Maintenant, il fallait, entre guillemets, réunifier tout ça, réconcilier toutes ces personnes. Mais ces quelques individus se sont retrouvés, avec le pouvoir en place, se sont retrouvés à Sun City. Et de Sun City, ils ont décidé de se partager le pouvoir avec le gouvernement 1 plus 4 à travers la constitution de la transition de 2003. Et dans cette constitution de 2003, qui est la résultante du dialogue inter-congolais de Sun City, il était prévu que ces nouveaux acteurs politiques puissent doter la République démocratique du Congo d'une nouvelle constitution, ce qui mettrait fin à la transition et donc au 1 plus 4 au niveau de l'exécutif. On voit d'où ça vient. Et les Congolais n'ont jamais été impliqués dans ce processus.
Pour ne pas l'utiliser. C'est du chiffon.
Oui, c'est exactement, c'est un chiffon. C'est un chiffon. Et on voit tous les problèmes que ça pose.
Il faut notre propre constitution.
Il faut notre propre.
Par les Congolais sur le sol congolais.
Exactement. Mais pas seulement ça. Il faut voir quel sera le contenu de tout cela.
Alors, professeur, venons-en maintenant à la notion même et à la finalité d'une constitution. Le bien fondé de votre démarche, à quoi sert normalement une constitution? Pendant qu'on sait que, je peux citer seulement la Grande-Bretagne, n'a pas de constitution physiquement parlant ou une constitution entièrement écrite. Mais tout semble bien marcher.
Bon, déjà, moi, je suis pas d'accord avec ceux qui disent que la Grande-Bretagne n'a pas de constitution. Je l'ai écrit par ailleurs dans d'autres de mes ouvrages. La Grande-Bretagne a une constitution ou a une constitution, mais qui n'est pas contenue dans un seul texte. N'est-ce pas? Comme était la Troisième République française, comme étaient les anciennes constitutions finlandaises, sur lesquelles j'ai travaillé d'ailleurs. Donc, il n'y a pas un texte unique, mais le Royaume-Uni a une constitution, n'est-ce pas?
Écrite.
Écrite. En partie écrite, en partie non écrite.
Non écrite.
C'est la coutume, mais qui est parfois aussi consolidée, codifiée. Et ce qui me permet justement de dire à quoi sert une constitution. Une constitution sert à deux choses. Un, organiser les pouvoirs. Et de protéger les libertés. Et si on prend le cas du Royaume-Uni.
Et maintenant, le pouvoir est bien organisé, non? Nous avons la séparation des pouvoirs.
Non, justement, c'est là le
problème. Vous parlez quand même de la distinction des pouvoirs.
J'en parle. Mais on peut dire qu'il y a le pouvoir législatif, il y a le judiciaire et il y a l'exécutif. Ça, ce n'est pas la séparation. Oui, c'est aussi la séparation. La séparation, elle est d'abord fonctionnelle, n'est-ce pas? Je prends un exemple pour vous montrer qu'il y a un gros problème au niveau de la séparation des pouvoirs. Prenons que le judiciaire. Le Conseil constitutionnel aujourd'hui se permet, alors que la Constitution ne lui donne aucune attribution là-dessus, de contrôler la constitutionnalité des arrêts des autres juridictions, en l'occurrence, par exemple, le Conseil d'État, qui est une juridiction, la haute juridiction de l'ordre administratif. Mais là, il y a une atteinte, justement, à la séparation des pouvoirs. Et pourtant, tous deux font partie du pouvoir judiciaire. Il y a une intrusion
de la Cour constitutionnelle.
Eh bien, exactement. Dans un domaine qui ne concerne pas. Et la justification donnée par la Cour constitutionnelle, elle est fallacieuse. Je prépare un article là-dessus, justement. Prenons maintenant entre les judiciaires et législatif et exécutif. En 2011, on a révisé la loi de janvier 2011. Il y a eu la réforme de la Constitution. On a révisé l'article 149 de la Constitution. On a sorti le parquet du judiciaire. Aujourd'hui, le ministère public, les parquets ne font plus partie du pouvoir judiciaire. Les parquets ont été soumis maintenant à la botte, en quelque sorte, sous les ordres de l'exécutif et du législatif. Alors que l'article 149, dans son alinéa premier, précise bien que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Dans l'ancienne version, ce pouvoir est dévolu à, ainsi de suite, on avait dit, et les parquets y rattachés. Mais depuis 2011, les parquets ne sont plus. D'où les fameuses propositions de loi qui n'ont pas prospéré, Dieu merci, Sakata Minaku. Il y a eu tout un débat là-dessus. Je parle seulement du parquet déjà. Dès lors que le parquet n'est pas indépendant, il y a un risque. Voilà la question à risque. Un risque de l'arbitraire judiciaire. Et on le voit aujourd'hui. Les injonctions peuvent venir...
Du ministre de la Justice.
Pas seulement, du gouvernement. De façon générale. Ça peut même venir du législateur. Parce que le législateur peut adopter... Bon, on a vu les tentatives de proposition de loi Minaku Sakata pour justement soumettre le judiciaire, le parquet, n'est-ce pas, qui devait être garant de notre liberté. Parce que c'est quand même lui qui est l'auteur de l'action, qui déclenche l'action publique. Donc il y a risque d'arrestation arbitraire, risque de poursuite arbitraire, ainsi de suite. Et ça va arriver à ce qui est arrivé là à Makala. Vous voyez ? Il y aura une surpopulation dans les prisons, des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que l'arbitraire prévaut sur, justement, la justice.
Donc, est-ce que le problème n'est pas dans le mental de ceux qui nous gouvernent ? On ne veut pas appliquer le texte. On peut avoir les beaux textes. On en a beaucoup. Mais il se pose un problème d'application. Le non-respect des textes.
Mais l'application est liée à quoi ? Avant d'abord de voir l'application, il faut voir aussi la pertinence des textes. J'ai la chance de travailler sur plusieurs textes. Il y a beaucoup d'incohérences au niveau des textes, il y a beaucoup d'incohérences, voire de contradictions entre des textes. Il y a un mauvais travail législatif qui est fait. Il faut qu'il y ait une formation sur la légistique. Il faut qu'on forme bien les législateurs à pouvoir adopter de bons textes. C'est pour ça d'ailleurs, peut-être qu'il serait mieux que beaucoup de textes soient rédigés dans nos langues, n'est-ce pas ? Quitte à les traduire après en français, parce que la compréhension ne sera pas la même. Autre chose, quand je parlais du parquet et du judiciaire, c'est la question de la sanction. Pour ne pas prendre un exemple, on va me traiter de tout est...
L'impunité, tout est détruit.
Oui, l'impunité. Vous suivez l'actualité politique, quelqu'un qui détourne ou qui est poursuivi pour ceci. Allez, deux personnes sont entendues, mis à Makala, un autre, on dit, bon, il ne va pas sortir. Après, on dit non, allez... Il sort du pays, et il part, il fait ce qu'il a à faire, il revient en triomphe.
On ne saurait pas aborder tous les aspects du livre que j'ai lu. Vous affirmez que les conflits communautaires de Malembankoulou dans la province du Haut-Lomami, ceux opposant les Teke et les Yaka dans le Maï-Nombé, ou encore les Katangé et Kassayens dans le Haut-Katanga, sont des tragédies provoquées par la conception ethniciste de la nature juridique de l'État. Comment le justifiez-vous ?
Alors, et ça, c'est le gros problème du Congo, justement, d'où la restauration. Nous étions, sous le Zaïre, un État foncièrement unitaire, qui n'était pas vraiment décentralisé, on va dire plus ou moins centralisé, un peu déconcentré, mais qui ne l'était pas tellement. On voit qu'elle faisait de ça centralisé. Mobutu a échoué parce qu'il n'a pas mis en place la décentralisation et une bonne déconcentration. Mais nous étions, unis et indivisibles. Moi, je suis des Kenge, je pouvais me retrouver à Lubumbashi, j'étais Zaïrois. Mais aujourd'hui, j'ai la chance quand même de sillonner ce pays. Récemment, j'étais à Lubumbashi. J'entends, entre Katangé, je vais pas loin, les Katangé, qui sont devenus certains du Tanganyika, du Lualaba, du Haut-Katanga, ou Haut-Lomami. Ceux, c'est les Bemba, je crois, hein, qui sont majoritaires à Lubumbashi. Aujourd'hui, qualifient le Rund, par exemple, du Lualaba, de non-Katangé. Ils doivent rentrer chez eux où? À Lualaba, Kolwezi. Imaginez, une seule province. C'était tout le monde. Nous, on les causait comme les Katangé. Mais aujourd'hui, non. Il y a les Haut-Katangé, il y a les Lualabé, il y a ceux du Tanganyika et ceux.
Ça pose
Donc,
déjà...
il faut changer tout cela. Nous ne sommes plus un État. On a créé des républiquettes.
Vous proposez un État
unitaire.
Unitaire, fortement décentralisé.
Exactement. Fortement décentralisé.
D'autres militent pour la fédération.
Non. Le fédéralisme, je ne suis pas contre, mais non pas comme forme d'organisation de l'État, comme un fédéralisme structurel, mais plutôt un fédéralisme fonctionnel. C'est-à-dire que c'est un fédéralisme dans la gestion de l'État. C'est-à-dire qu'on peut avoir un État unitaire et avoir une gestion fédérale, c'est-à-dire une décentralisation tellement poussée.
Est-ce que le démembrement de nos provinces n'a pas été une mauvaise expérience ?
Ah ben si, ça a été une mauvaise, mal conçue. Le démembrement en soi ne pose pas problème. Ce qui pose problème, c'est la création de ces républicaines. C'est-à-dire, on a créé des fiefs où certains sont là pour asseoir un peu leur propre pouvoir. Vous voyez, qu'on aille par exemple dans le Kwil ou dans le Kwang ou dans le Maïndombe, le grand Bandundu, aujourd'hui, moi je ne me reconnais pas comme étant de Bandundu. Parce qu'on me fait comprendre que t'es pas d'ici, t'es pas de là. Et quand vous prenez même le Kwil ou par exemple, entre Bandunduville et Kikwit, il y a des guéguerres là-dessus. Vous voyez, donc c'est-à-dire que on a fait en sorte que certains puissent instrumentaliser le pouvoir à des fins tellement personnelles pour créer la division. Même au sein, justement, d'une seule et même province. Oui. Donc, pour moi, pour éviter tout cela, on supprime les provinces dans la forme actuelle, mais on crée des provinces en tant qu'entité territoriale décentralisée. Et mais on va restaurer également le territoire et lui donner également le statut d'entité territoriale décentralisée. Et ça sera la circonscription de base de l'élection des députés et autres.
Voilà une nouvelle constitution pour un Congo restauré. C'est un projet du professeur ordinaire Mapaka Placide Mukwa Buyika. Si elle venait d'être adoptée, et je crois qu'elle devra être soumise à un référendum populaire.
Bien évidemment, et c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire le peuple sera en amont et il sera en aval. C'est-à-dire il va donner mandat, il va participer et il va maintenant ratifier. N'est-ce pas? C'est ça. Le référendum en ce moment-là a un sens. J'ai donné mandat, je contrôle, je vérifie et je valide ou je ne valide pas. Là, c'est ça le sens du référendum. Et là, on aura une constitution faite par le Congolais, pour les Congolais et dans l'intérêt du Congo.
C'est par ici que nous mettons un terme à ce magazine. Merci de votre écoute et bonne suite de nos programmes.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.